Democracy Now! Is produced with Renee Feltz, Mike Burke, Dina Guzder, Messiah Rhodes, Nermeen Sheikh, Maria Terracena, Tarina Nadura, Sam Alkoff, Tamari Astudio, John Hamilton, Robbie Karen, Hani Masood, and Mary Conlon. Our executive director is Julie Crosby. Special thanks to Becca Staley, John Randolph, Paul Powell.
Bonsoir tout le monde, bienvenue à votre émission d'art et de culture du vendredi, l'émission Café sur les ondes de CKUT. Il est 18h01 et c'est Alex au micro en compagnie de Lynn. Allô Lynn!
Salut, salut!
Contente de te voir en studio.
Moi
alors
aussi.
Alors, ce soir, gros programme, hein, comme c'est le cas depuis plusieurs mois maintenant. Lynn, est-ce que tu veux nous parler de tes nombreux sujets?
Oui, semaine très productive par rapport aux entrevues et à la culture en général. J'ai une entrevue avec Gabriel Léger-Savard, qui est metteur en scène de la performance « Elle du déluge » qui va être performée au Théâtre La Chapelle du 28 novembre au 6 décembre. J'ai rencontré El Mega Supreme, qui est un producteur qui a sorti un EP qui s'appelle Yesterday en octobre, que j'ai interviewé également. Et finalement, le chorégraphe de la danse, de la performance de danse Le Sacre de Lila. Le chorégraphe s'appelle Ismaël Mouaraki et je l'ai interviewé également. Et je suis allée voir la performance de danse cette semaine.
Nice, nice. Grosse semaine. Et moi aussi, ça a été pareil. Tantôt à l'émission, on va recevoir la réalisatrice Karen Cho pour son tout dernier documentaire « Big Fight in Little Chinatown ». Donc, elle va nous parler de ce film qui est à l'affiche en ce moment dans le cadre des RDM. Je vais aussi vous parler brièvement de la pièce de danse contemporaine que j'ai été voir hier qui s'appelle « Baby Leaf ». De l'artiste multidisciplinaire Anne Vaux. On commence-tu?
Ben ouais, let's go! Donc, c'est ça, Elle du déluge. Ça a été mis en scène par Gabriel Léger-Savard et Marilyn Daou. C'est de la danse, du théâtre, de la performance, du chant, en bref, de l'interdisciplinaire. C'est présenté au Théâtre La Chapelle, donc du 28 novembre au 6 décembre. Ça parle d'un amour arraché, d'une crise, de l'épreuve des monstres et des rythmiques d'un soulèvement. Il n'y aura qu'un cœur et une femme, l'un pour elle, contre elle, en elle. C'est à une épopée contre l'engloutissement qu'on nous convie, une reconstruction intime et collective portée par 12 interprètes sur scène. Donc, ça va être super intéressant. Moi, je vais le voir à la première qui est le 28, lundi prochain. Et c'est ça, j'ai parlé à Gabriel Léger-Savard, qui est donc le metteur en scène de cette performance.
Puis c'est ça, est-ce que tu peux un peu me résumer en quoi consiste la performance? Puis aussi, j'étais curieuse par rapport au titre « Elle du déluge », ça représente quoi?
Ben, en fait, c'est un titre qui représente plusieurs affaires, parce que pour moi, c'est important aussi de... Ben, dans les œuvres qu'on fait, là, Marilyn Daou puis moi, on a déjà travaillé sur un autre projet qui s'appelait « Le temps des fruits », c'est aussi de représenter la multitude, la complexité du monde. C'est pas juste une affaire, tu sais. Donc, plus précisément pour le titre, ben, en français, « elle », ça peut être E-L-L-E, A-I-L-E-S, les « elles », ça peut être aussi le début d'un mot qu'on peut choisir, n'importe lequel. Puis sinon, au niveau graphique, c'est vraiment un angle droit. Fait que pour moi, c'est comme un changement de direction, en fait. On s'en va complètement ailleurs, tu sais. Dans le fond, cette pièce-là, ce que j'ai voulu explorer avec ça, c'est... j'ai toujours été passionné par les mythes, les épopées, disons, comme l'épopée d'Ulysse, Gilgamesh, ou même au niveau de la tradition orale autochtone aussi. Il y a des grands récits mythiques avec plusieurs épisodes. Puis j'ai l'impression que ça s'est perdu un peu cette manière de compter le monde, d'envisager le monde. Maintenant, on est très réaliste, très linéaire. Donc je suis allé puiser un peu dans les racines de notre culture à nous, plus précisément, là. J'étais très intéressé par les mythes du déluge, parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup écho à ce qui se fait en ce moment, une espèce de désir de faire table rase, quelque chose qui est allé trop loin au niveau de la société, sauf que j'avais pas nécessairement envie de le présenter comme une fable écologique ou tout ça, donc je l'ai rentré vraiment dans l'histoire de quelqu'un qui vivait son propre déluge à elle, que j'ai assimilé à une peine d'amour, en fait. Quand il y a une histoire qui se termine, comment on fait pour se reconstruire, comment on fait pour faire table rase, mais en même temps, il nous reste des choses. C'est vraiment une fable super épique à laquelle on assiste à La Chapelle, puis c'est vraiment porté par 12 interprètes de grands talents. Fait qu'on est dans les derniers droits, là, j'ai hâte de le présenter.
Ben oui, c'est sûr, c'est cool. Puis j'imagine que les spectateurs vont pouvoir le ramener aussi à leur expérience personnelle, puis à s'approprier un peu leur propre déluge. C'est ça. Est-ce que tu dirais que, parce qu'en lisant la description du spectacle, j'ai comme eu l'impression que ça allait peut-être être un petit peu négatif, ou je sais pas si négatif c'est le bon mot, mais tu sais, on parle quand même de quelque chose qui est plus dramatique. Est-ce que tu dirais ça? Comme, ma question en fait, c'est quelles émotions tu penses que la performance explore? En général.
Ben, c'est sûr que c'est dramatique. La prémisse de départ, c'est vraiment une peine amoureuse, là, un amour déchiré, puis pas contre le gré des personnes, là, vraiment pas. C'est pas une rupture bien réfléchie, non, là.
Ouais.
Mais le public va. C'est quand même. Fait que c'est. Au début, c'est quand même poignant. On s'attache à cette histoire-là. C'est divisé en trois actes. Fait que l'acte 1, c'est vraiment beaucoup plus. On présente aussi la ville, l'état de crise dans laquelle on est, parce qu'on fait un parallèle entre la crise intérieure puis la crise extérieure, en fait. Sauf qu'à un moment donné, comme dans chaque bonne étape de deuil, on a besoin de se changer les idées, puis de pas réfléchir, puis de. Là, on l'illustre un peu comme dans une espèce de party, tu sais. Fait que l'acte 2, il est vraiment. Là, ça rentre, là, comme il y a du gros beat. Puis là, pour faire écho aux grandes épopées mythologiques, ben, dans cette partie-là, Ariane, la personnage principale, elle va rencontrer des monstres super extravagants qui vont. C'est la rencontre de ces monstres. C'est drôle, là. C'est vraiment. Il y a vraiment des bonnes trouvailles, là. Fait que c'est la rencontre de ces monstres-là qui vont lui permettre de récupérer un certain pouvoir, de faire comme non, non, moi je suis pas comme eux, j'ai besoin d'autre chose. Puis, ouais, fait qu'on passe quand même par quelque chose de rythmique, de comique aussi. Puis à la fin, ben, ce qu'on espère, c'est qu'elle passe à travers ça, elle décide de faire comme non, ça marche pas, vous autres non plus, ça marche pas. Puis elle se tourne vraiment vers une autre vie, vers tourner une page, en fait. Puis là, ben, on espère que c'est de l'espoir, en fait, qui sort de ça.
Herbal teal. Look, yo, tip of the hat, pick yourself up. Everybody looking at you messed up. Moves don't make kings move, but I see you moving out of pressure. Rock solid in stones, homie. Gotta make it on your own, homie. That's what they all told me. But truly, though, they all phony. Like, wait, like, hey, huh. I ain't waiting, all they say, nah. I ain't looking up to Kanye, nah. I ain't looking up to Jay. Even Harold Second had to fall. Stay on point, on guard, you a foot of guard. Yo, interviews tell me you a fraud. Yo, $360 deal, throw screw it all. It's a war with a common enemy. And I woke up this morning with a little energy. And I told myself, why not? Every track dropped here is a headshot. Please stop telling me where to shop. Please stop telling me what is hot and what's not. I see you watching, all eyes on me. I'm feeling like pop. We the transcenders, they the populators. Populators. You just miss your stop on this elevator. Elevator. Yes, we've been on the low, but don't think we don't know. We know. From sleeping on the floor to take over the globe.
We the transcenders, they the populators. You just miss your stop on this elevator. Yes, we've been on the low, but don't think we don't know. From sleeping on the floor to take over the globe. Some out there might hate on me, while others out here waiting on me. Yes, that means a little weight on me. Think I won't make it, well, wait and see. Freedom fighters, yeah, we fight for peace. Don't think the only war's in the east. Don't we all wanna live at ease? It's a holy war, Alicia Keys. A little time off, Game of Thrones on a days off when the doze off. It in a pit, but yet on the corner with a patty and a brisk. Somebody please hold me back. You call that rap? Well, that's just whack. All these broccoli rappers, huh? Just make me laugh, yeah. And they say you making money, but me and you know that's not true. If you got a bad deal, I wonder what kind of deal the person you signed got. Seeing your favorite rapper depressed, is it cause of the lack of rest? Or is it them low checks? Huh, guess Universal knows best. We the transcenders, they the populators. You just miss your stop on this elevator. Yes, we've been on the low, but don't think we don't know. From sleeping on the floor to take over the globe. We the transcenders, they the populators. You just miss your stop on this elevator. Yes, we've been on the low, but don't think we don't know. From sleeping on the floor to take over the globe. From sleeping on the floor to take over the globe.
De retour sur les ondes de CKUT. Toujours Alex qui vous parle, il est 18h12 et nous avons en notre compagnie Karen Cho, la réalisatrice du film Big Fight in Little Town. Bonsoir Karen, merci de t'être déplacée jusqu'ici.
Bonsoir, merci de m'inviter.
Oui, ça fait vraiment plaisir. Donc, cette semaine, j'ai eu la chance de visionner cet excellent documentaire qui est présenté dans le cadre des rendez-vous du documentaire international qui, tout en retraçant l'histoire de plusieurs Chinatown en Amérique du Nord, dénonce l'embourgeoisement et les tentations d'éviction en faisant le portrait de la combativité des communautés pour défendre ces lieux patrimoniaux auxquels ils ont un grand attachement. Et avant de plonger plus dans le sujet, on va écouter une partie de la bande-annonce.
We're here in America, third generation Chinese American, and we've developed home here.
If you think about where it's located, that really makes Chinatown a neighborhood that the city wants to take back to make a lot of money off of.
You're f***ing nuts.
A lot of anger tonight in one of New York's most iconic neighborhoods, Chinatown. Anger over the city's plan to put a so-called community jail there.
This is very valuable real estate.
We come here to protect our community from the city.
This is really a battle for the soul of Chinatown, and not only here in New York City, but throughout North America.
This is where you can put a freeway through Vancouver's Chinatown to obliterate it.
If you want to get rid of the Chinese, you train your bullseye, your target.
Toujours sur les ondes de CKUT, on vient d'entendre une petite partie de la bande-annonce de Big Fight in Little Chinatown de la réalisatrice Karen Cho, qui est avec nous en studio en ce moment. Donc, réalisatrice de plusieurs films, documentaires, qui ont tous en commun d'utiliser ta caméra comme un outil de débat social en partant d'un point de vue personnel. Je me demandais, qu'est-ce que représente ce documentaire pour toi dans ta filmographie?
Pour moi, oui, c'est comme un retour au début pour moi, parce que mon premier film, il y a presque 20 ans maintenant, c'était un film sur la taxe de rentrée contre les Chinois et l'acte d'exclusion. Et c'est un film que j'ai tourné au quartier chinois ici à Montréal, aussi celui de Vancouver. Mais c'était un film on a eu des projections partout au Canada dans les quartiers chinois. Fait que j'étais vraiment proche à ces communautés-là. Moi-même, j'ai des racines très profondes dans le quartier chinois ici à Montréal, aussi à Vancouver. Donc pour moi, c'est comme un retour, parce que au début, c'était mon premier film, cette film-là, et c'était vraiment la communauté qui m'a donné une voix comme cinéaste, et aussi m'a appris ce pouvoir des histoires qui viennent du communauté. Donc, quand j'ai vu les quartiers chinois au présent dans voie de disparition, dans une période d'effacement vraiment actif, je sentais que j'avais un genre de responsabilité de retourner dans ma communauté pour mettre une lumière sur ces enjeux-là et faire un film encore dans les quartiers chinois.
Justement, tu as mentionné tes racines profondes. Dans le film, on a l'occasion de justement plonger un peu dans... Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces racines?
Oui, mais en fait, oui, mon arrière-grand-père ici à Montréal, il était un associé dans le Wings Noodles. Mm-hmm. C'est le commerce le plus vieux ici à Montréal. Ça date de... Well, c'est dans le quartier depuis plus que 130 ans maintenant. Mm-hmm. Et c'est une usine qui fait des nouilles, des biscuits de fortune. Mais pendant que j'ai tourné le film... l'édifice Wings a été acheté par des développeurs qui sont vraiment connus partout à Montréal pour faire des rénovations. Mm-hmm. Fait que quand la communauté sache que Wings, les deux édifices qui appartenaient à Wings Noodles étaient vendus et que le développeur a commencé à acheter plusieurs différents édifices sur le même îlot. C'est l'îlot le plus historique de notre quartier chinois. On a vu qu'on était comme minuit moins cinq de perdre le quartier parce qu'il y avait trois autres condos deluxe qui rentraient dans le quartier. Il y avait plein de constructions partout. Fait, c'était un grand enjeu quand c'est arrivé.
Puis, si je me trompe pas, c'est quand même... Il y a une grande bataille qui a été faite concernant ça. Puis, est-ce que vous avez réussi en partie?
Oui, mais le groupe de travail sur le quartier chinois a mobilisé plusieurs mondes. Il y avait un résident au quartier chinois, un monsieur qui s'appelle Jean-Philippe Riopel. Désolée.
C'est correct.
Lui était un locataire dans un édifice qui était vendu. Donc, quand il a su que son édifice était vendu, celui des Wings Noodles aussi, c'est lui qui a mis ça publiquement pour dire qu'il y avait des acheteurs, des développeurs qui achètent tout l'îlot. Et moi, j'étais aussi bénévole avec le groupe de travail sur le quartier chinois pendant que je tournais le film. Donc, nous, on est allé au public pour les informer de ça. Et on a mobilisé plusieurs personnes. On a eu plus que 70 bénévoles nous joindre. On a fait plusieurs choses pour que les gens de Montréal sachent qu'on est sur le bord de perdre un quartier. En fait, le quartier est le deuxième plus vieux de Montréal. Après le Vieux-Port, le Chinatown est le deuxième faubourg. Mm-hmm. Fait qu'on risque de perdre, pas juste pour les Chinois, mais pour pour tout le monde, une grande histoire de Montréal.
Absolument.
Les immigrants irlandais, écossais, français, juifs étaient aussi dans le même quartier à l'époque. L'édifice Wings date de 1826. L'architecte de cet édifice-là est le même qui a fait Notre-Dame. Ici à Montréal. Fait juste au niveau d'architecture, c'est important. Mais aussi, well, mais surtout pour le quartier chinois, c'est vraiment comme l'âme de notre quartier. Y a un temple bouddhiste dans l'îlot. Y a des aînés qui vivent là. Fait on risque de perdre une grande partie de notre communauté, de notre culture. Et les gens qui vivent dans le quartier chinois.
Puis, il y a tellement de choses dans ce que tu dis que j'ai envie de soulever, mais on parle de Montréal beaucoup, mais ton film, il fait le portrait d'autres Chinatown. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir te promener un peu? Parce que là, ce qu'on peut observer dans ce film, c'est que ce sont tous des quartiers qui sont en voie d'extinction, finalement, là, qui sont aux prises avec les mêmes problèmes de gentrification. Donc...
Oui, mais c'est vrai, il y en a des pressions de gentrification ou expropriation un petit peu partout dans les quartiers chinois. Mais moi, quand j'ai regardé plusieurs quartiers en même temps, j'ai vu qu'il y avait une répétition des choses qui fait... En fait, c'est une intersection entre le racisme et l'urbanisme qui fait que les quartiers comme le quartier chinois est toujours... on met toujours soit les roues, les édifices gouvernementaux. Dans l'histoire du film, on parle d'une grande prison qu'ils essaient... le plus grand prison du monde.
À New York.
À New York, ils essaient de le mettre juste au milieu d'un quartier vivant avec des aînés qui vivent juste à côté. Ils vont détruire deux autres... ils sont supposés de détruire deux autres édifices qui sont même pas trop vieux, mais pleins d'asbestos.
Puis ça, c'est une lutte qui est encore en cours. Là. C'est super récent là, comme projet. C'est ahurissant.
Oui, ça continue. Donc, les gens du quartier à New York, ils sont contents que le film mette en lumière sur ça. Ils vont l'utiliser pour leur lutte, pour continuer à combattre cette idée de, you know, de détruire deux édifices pour faire un gigantesque prison de 40 étages.
Puis ça, c'est quand même un autre élément important de ton film, c'est qu'on a la chance comme spectateur de visionner des images puis de donner un sens à des quartiers chinois qu'on est... Tout le monde, ben moi comme personne blanche qui vient de Montréal, ça fait partie de ma vie, j'ai grandi dans ce quartier-là. On connaît pas l'histoire de ces quartiers-là. C'est souvent des lieux touristiques. Là, on en parlait un peu off-mic avant de commencer l'entrevue. C'est des lieux qui sont souvent considérés comme touristiques, mais avant d'être historiques, avant d'être des lieux sociaux aussi, alors que c'est à la base des lieux de vie.
Oui, c'est ça, c'est surprenant, mais ici, surtout à Montréal aussi, les quartiers chinois historiques sont, dans leur ville, presque toujours un des plus vieux quartiers du ville. Mais comme c'est le quartier chinois, on pense toujours que c'est comme à part, ou soit une place touristique ou une place étrangère. Le film a pris place pendant le COVID, fait que le quartier était vraiment stigmatisé. Même si ça date de presque 200 ans dans les villes, ils ont fait un lien entre le quartier chinois et la Chine en parlant du COVID. Fait que tout le monde a... c'était stigmatisé, le quartier. Les restos avaient des grands problèmes. Et en plus, il y avait un genre de racisme anti-asiatique qui a vraiment exaspéré pendant cette période-là, mais qui est vraiment raciné dans les débuts de ces quartiers-là qui sont fondés sur le racisme. Mais le problème pour moi, que je voulais faire dans le film, c'est de vraiment ancrer ces quartiers-là dans l'Amérique du Nord. Il fait partie de notre histoire ici. C'est vraiment où la diaspora chinoise a mis leur première racine, au Canada ou en Amérique. Mais c'est des quartiers vraiment vieux qui font partie de ici. Donc, quand on parle de Montréal, le quartier chinois fait partie de Montréal aussi et partie de l'histoire de Montréal. Donc, quand on veut avoir un genre de plan pour revitaliser le quartier, il ne faut pas juste penser aux touristes. Il faut penser aux résidents qui sont là, les besoins des résidents qui sont là, la qualité de vie pour ces gens-là, le déplacement qui se fait. Fait que c'est vraiment important de voir ces places comme des quartiers importants dans notre ville.
Ouais. Ouais, puis c'est vraiment un pari réussi parce que tu arrives vraiment à l'aide de ta caméra à leur donner une voix, puis une voix qui mérite d'être entendue de plus en plus dans des contextes de gentrification extrême dans nos villes en ce moment en Amérique du Nord.
Oui, et une chose qu'on a essayé vraiment fort ou consciemment, c'est de faire rentrer la caméra dans les espaces que personne vu. On veut franchir cette façade touristique.
Ouais.
Donc, on a descendu soit dans les cuisines ou sur le deuxième étage dans les associations familiales ou dans les maisons des gens. C'est là où la âme du quartier vit. Donc, je voulais vraiment montrer aux gens, surtout les gens qui connaissent pas très bien peut-être le quartier chinois, que c'est une place vivante, avec la culture, avec un sens de communauté très fort. Donc, c'est pas qu'une place pour acheter des keychains et des t-shirts qui dit Chinatown.
Ouais. Mais Paris réussit, puis j'aimerais qu'on parle aussi des archives. Parce que ton film en est rempli de magnifiques archives. Est-ce que ça a été un défi de les trouver?
Mais oui, c'était une grande recherche pour les trouver. Mais ici à Montréal, on a creusé comme vraiment profondément dans les archives de Radio-Canada. Pour la première fois, en fait, montrer cette histoire d'expropriation qui était faite dans le quartier. Parce qu'on pense toujours comme l'édifice Hydro-Québec, la place des Jardins, le complexe des Jardins, Guy Favreau, Palais des Congrès, on pense à ces édifices-là comme les édifices montréalais. Mais avant d'être les édifices montréalais, ils étaient le quartier chinois. Et comme deux tiers du quartier étaient détruits pour construire, c'est même le Ville-Marie. Pour construire tous ces projets-là. Donc, il faut comprendre à quel niveau que les Chinois étaient là avant, mais aussi à quel niveau que notre présence continue à ces jours à être effacée dans la ville. Et c'est très... parce qu'aujourd'hui, on a des condos de luxe qui rentrent dans le quartier. Tu peux rentrer sur leur site web. Aucun... mention du quartier chinois. Il dit qu'ils sont un canton de luxe près de quartier de spectacle, près de Vieux-Port. Mais ce quartier-là, ça s'appelle le quartier chinois.
C'est terrible.
Ils prétendent qu'ils sont dans une autre place. Mais en fait, c'est dans leur narratif, ils commencent à effacer la présence d'une communauté qui était là depuis 150 ans. Donc, pour nous, c'est très important de raconter ces histoires-là parce que, et de les rentrer dans la narrative du ville, parce que comme ça, c'est moins facile de nous effacer.
Oui, mais merci pour ce témoignage. Et peut-être, avant de se quitter, mais là, on parle de l'importance de leur donner une voix à ces quartiers-là, à ces gens-là. Est-ce que tu aurais des conseils, qu'est-ce qu'on peut faire pour... c'est quoi la prochaine étape, tu sais? Parce que là, il y a ce film-là, il y a des luttes en cours, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire comme Montréalais, Montréalaise qui...
Oui, nous, il y avait un statut héritage qui a été donné au quartier chinois cette année au niveau de province et de la ville, mais pour nous, c'est vraiment une étape 1. C'était une manière de faire baisser la spéculation immobilière qui se faisait. Mais en tant que citoyen, il faut vraiment être critique de la ville qui nous entoure et du développement qui nous entoure. Et demander des questions très critiques, comme c'est pour qui qu'on construit cette ville-là? C'est pour qui... quel quartier soit effacé dans tout ça. Parce que le quartier chinois, à un niveau, c'est en danger, mais à un autre niveau, il y en a une résilience, là, un sens de survie. Et aussi, il a les graines de qu'est-ce qu'on veut comme urbaniste avoir dans d'autres quartiers. C'est à échelle humaine, abordable, marchable. C'est un quartier où les gens connaissent leur voisins. Donc, c'est des valeurs comme ça qu'on veut amener dans d'autres quartiers, amener dans le futur du développement de Montréal, en fait.
Mm-hmm.
Fait que pour moi, je pense que c'est aux citoyens de demander des questions d'heure aux politiciens quand un genre de développement sans âme arrive au quartier. Il y en a un déplacement des gens qui n'ont pas l'argent ou qui leur culture n'est pas la culture dominante.
Puis, c'est parce que j'aurais envie de te poser plein de questions, mais peut-être juste une dernière, j'aurais envie de t'entendre sur justement cette... Parce que là, on parle des quartiers centraux, mais en ce moment, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les communautés s'éparpillent. Puis là, il y a des grandes communautés asiatiques qui sont plus dans les banlieues montréalaises. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène-là?
Oui, mais c'est ça. Il y en a toujours cet effet. Like, il existe des banlieues asiatiques. Nous, aujourd'hui, on peut avoir du bubble tea, des machines, n'importe où.
Mm-hmm.
Mais quand même... Le quartier chinois lui-même, et surtout lui de Montréal, parce qu'il existe sur son emplacement géographique original. Il y a des associations familiales qui datent depuis 150 ans, qui sont là encore.
Mm-hmm.
On ne peut pas avoir ça à Brossard ou d'autres places. Donc, il y en a des couches d'appartenance, de connexion. Pour moi, je suis cinquième génération canadienne-chinois, mais même les nouveaux arrivants, ils ont un lien avec le quartier chinois à Montréal. Et c'est vrai, il y en a plusieurs Asiatiques qui vivent dans les banlieues, mais quand même, le quartier chinois, c'est un lieu d'appartenance, un lieu de... où on se rassemble encore.
Ça reste le cœur.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'il y aura une sortie en salle prochainement?
On ne sait pas.
Okay.
Encore. On a... ça va être projeté au RIDM mm-hmm. demain. Après ça, on veut avoir... qu'est-ce qui est planifié? On va avoir qu'est-ce qui est appelé en anglais un impact campaign. Okay. Fait que c'est ça, on va prendre le film et organiser les projections dans les communautés pour avoir un vrai impact.
Nice.
On perd des enjeux et on peut utiliser ce film-là. Et c'est pour ça que je suis en fait un documentariste. C'est pour utiliser le film comme outil de débat, outil du change. Fait que c'est ça. On veut que le film soit projeté dans les communautés, dans les quartiers chinois, mais pas nécessairement juste les quartiers chinois parce que... le quartier chinois, c'est comme symbolique des autres quartiers marginalisés qui étaient complètement effacés. Nous, on partage notre histoire avec les gens de Little Burgundy ici à Montréal, avec d'autres quartiers marginalisés qui étaient qui fait face à ces pressures de gentrification à un effacement vraiment actif. Fait que ce n'est pas juste une histoire du quartier chinois, mais peut-être on peut trouver des solutions ou une inspiration de la lutte qui se fait dans la lutte Save Chinatown pour les autres quartiers aussi.
Ben, à suivre, donc. Et pour celles-là qui ont envie de voir le film, il joue demain, le samedi 26 novembre à 13h15 au Cinéma du Parc. Merci vraiment beaucoup, Karen. C'était vraiment intéressant.
Merci. Reminiscing on my past and yo, check it. Reminiscing on my past and my high school days, walking through the hallways, man, I wonder why they laughing, stuck up in my head, listen, yo, check it,
Yo, check it. Reminiscing on my past and my high school days. Walking through the hallways, man, I wonder why they laughing. Stuck up in my head and I'm too afraid to ask them. This ain't really life, no, you stuck up in a cycle. You like her and she right in front of you, but you mumble cause you feel like ain't no one as dumb as you. And they tell you you a god and you question if it's true. That's the reason why we got dreams that are never coming true. I've been lost heading west and I'm heading east now. They've been hating for a while till I told them peace out. Man, it's crazy how the people got you anxious. It's fascinating how we mirror who we hang with. Seeing life from different angles, viewpoints, guess your circle can't fit up in this triangle. I'm sick and tired of being surface. Plus I realize that time flies when you got no purpose. Everything is happening fast, I didn't even really bother to ask. Gets foggy when I look at my past. I'm just trying to adapt, yeah. Don't get deceived when I laugh. Everything is happening fast, I didn't even really bother to ask. Gets foggy when I look at my past. I'm just trying to adapt, yeah. Don't get deceived when I laugh. Ever felt like you failed, but then you gave it your best. I feel like time is ticking fast and I ain't saving a breath. Ever told her how you feel and then it turned to a mess. Don't be a sucker, pick up the phone, call up the homie, get it off your chest. All these pills do is add to the stress. These past weeks were pretty hectic, I ain't had no rest. Mama think there's something wrong with me. I've been looking up to the sky till I realized the God's in me. No Godzilla, this is not a thriller. This like the best dream you ever had, but yet a lot realer. A big world seen through a young man's pupil in the backyard, catching the sun, getting my fuel. Ink from the pen is the oil for the transmission. Let's add a little for a smooth transition. I just came over to see if we can converse. Accidentally spilled water on her shirt, like what else can go worse? Everything is happening fast, I didn't even really bother to ask. Gets foggy when I look at my past. I'm just trying to adapt, yeah. Don't get deceived when I laugh. Everything is happening fast, I didn't even really bother to ask. Gets foggy when I look at my past. I'm just trying to adapt, yeah. Don't get deceived when I laugh.
Join Cinema Politica for our fall screening series. Monday, November 21st, Primera, a film on the Chilean uprising. Monday, November 28th, The Clabona Keepers, looking at indigenous land and water defenders on the west coast of Turtle Island. Monday, December 5th, Into the Weeds, a celebrated documentary that looks at the struggle against multinational pesticide company Monsanto. These films show on Mondays at 7 p.m. in room H110 at Concordia University, 1455 de Maisonneuve West, Metro Guy Concordia. Info, cinemapolitica.org. These screenings are a CKUT Radio co-presentation.
CKUT presence. We are dying to kill you. Friday, November 25th at Barfly, 4062A, Boulevard Saint Laurent. Show starts at 10 p.m. Admission is pay what you can. This is a CKUT co-presentation.
Il est 6h38, vous êtes toujours sur CKUT à l'émission de culture Café. C'est Lynn au micro. Tantôt, vous avez entendu Herbal Teal, excusez-moi, de Elmega Supreme, produit par Humble Ox. Et juste avant les pubs, vous avez entendu Memory Lane du même artiste que j'ai rencontré en entrevue plus tôt cette semaine. C'est Emmanuel, qui est plus connu sous le nom de Elmega Supreme. C'est un producteur culturel qui est né en Arabie Saoudite et élevé dans la ville état de Montréal. Il a commencé à rapper à l'âge de 12 ans. se produisant dans divers lieux de la ville. Il a ensuite rejoint Sovereign Music Movement et puis après Humblebox. Il travaille dans le marketing et les ventes. Donc, je vous mets à l'instant l'entrevue que j'ai réalisée avec lui. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours musical et de ta carrière?
Ouais. Alors, en fait, récemment, je viens de releaser un projet qui s'appelle Yesterday. Ce projet-là, c'est un EP. C'est sur toutes les plateformes. Et mon trajet, en fait, arrivé ici et tout un peu expliqué sur le projet aussi, c'était fait pour comme expliquer mon passé, d'où je viens. Et alors, mon trajet, tu sais, ça a commencé comme longtemps. Quand j'avais comme 12, 13 ans, en train de freestyle MC, je suis rentré dans Spoken Word à cause des événements que j'ai vus. Je suis rentré dans un événement que ça soit... ça, c'est les roots de où j'ai commencé. C'est du Spoken Word, poetry, à des événements où j'étais comme blown away. Je savais même pas c'était quoi exactement, mais j'étais introduit très jeune comme OCL. C'est un événement, un espace très, très libre qui m'a libéré de beaucoup de choses que j'ai vécues dans mon quartier. Et alors, ouais, c'est The Mic and Dim Light. Ça, c'est des gros événements qui ont comme établi une grosse présence dans ma vie. Alors, comme en faisant du spoken word là. Et depuis là, j'ai commencé à enregistrer, produire, rentrer avec le mouvement Sovereign Music Movement comme un apprenti dans le game de l'industrie de hip-hop. Mais après Humblebox, et Humblebox c'est en anglais c'est comme cultural production, c'est une production de culture, une équipe qui produit ça va dans tous les rounds de la culture, comme l'art, la musique, la littérature. Alors je fais du design, je fais du marketing, ça rentre dans, ça c'est un peu pour te dire, mon trajet est venu ici à explorer d'autres façons à utiliser l'art pour trouver des solutions à des problèmes dans le monde.
C'est ça, est-ce que tu peux me parler du EP Yesterday?
Ouais, alors le EP Yesterday, c'est ça a commencé parce que j'avais voulu décrire beaucoup de choses que j'avais vécues depuis un petit bout. J'étais pas sûr comment je voulais le faire, alors j'ai commencé à écrire des notes ici et là, des histoires. Alors, tu sais, retourner à mon quartier où j'ai grandi, évidemment, c'est très nostalgique. J'étais comme dans une période nostalgique dans ma vie. Alors, en écrivant des histoires, je suis rentré dans une petite bulle de you know, un peu comme reminiscing du passé. Et après, comme il y avait le collectif qui m'a dit, tu sais quoi, on a des beats, des instrus, tu peux venir les écouter pour avoir comme un track ou deux. Et j'étais comme, yo, je crois que c'est le temps de peut-être dire l'histoire à travers comme un projet, tu sais. Okay. Et alors, de là, j'ai comme écouté un beat, ça m'a fait penser à comme des histoires, un track. Et c'est devenu un EP. Alors, c'est plus un capsule de beaucoup de choses. Alors, je parle de mon trajet de famille en venant au Québec, comment ils sont arrivés ici, des choses que moi-même j'ai découvert après. Alors c'est du cloud rap dans ce côté-là, parce que c'est plus ethereal, cloudy, nostalgic in that vibe, avec des éléments de up-tempo beat, West Coast vibes sur quelques chansons. Et c'est sur les plateformes, ça vient de sortir octobre 7.
Ouais.
Et depuis là, c'est un cool ride, you know. C'est sur toutes les plateformes, si tu veux l'écouter, sur Tidal, Spotify, for sure. Ouais. Et ouais, ça c'est le projet. En fait, si vous voulez voir plus de tout qu'est-ce qu'on vient de parler, humblelux.com, c'est humblux.com. Allez nous voir sur les réseaux, c'est le même nom, la vie est simple. Alors Humblelux sur Facebook, Instagram.
Ouais.
Et tu peux checker tout qu'est-ce qu'on fait. Et Yesterday vient de sortir, alors go peep that, check it out, all platforms. Et merci beaucoup pour l'entrevue.
Ça fait plaisir.
Toujours sur les ondes de sécurité à l'émission Café, c'est Alex qui vous parle. On vient d'entendre la pièce Zora's Song de l'artiste Anna Arrobas qui va faire une prestation demain à l'église catholique Saint-Denis dans le cadre de la première édition du Festival Triste dont je vous ai parlé la semaine dernière. Lynn, veux-tu nous présenter ta prochaine entrevue?
Oui! OK, je suis vraiment pas objective là, cette semaine, mais c'était comme ma soirée préférée de la semaine, je pense. Je suis allée voir Le Sacre de Lila, qui a été chorégraphié par Ismaël Mouaraki. Et c'était apparemment la pièce la plus personnelle de son répertoire. Le Sacre de Lila, ça réunissait un groupe de danseurs du Québec et du Maroc en hommage aux racines du chorégraphe. En arabe, Lila signifie « nuit ». Et la création s'inspire des cérémonies de Lila, célébration mystique et musicale traditionnelle du Maroc d'origine d'Ismaël. Trance et spiritualité en sont l'essence. Avec ses danseurs, tous des hommes, Ismaël recrée cette structure, ses codes et ses rites qui révèlent la sensibilité et la sensualité du corps masculin. C'était comme tellement un gros rush de sérotonine. Je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est comme, tu sais, des hommes québécois sont pas comme des hommes marocains. Les hommes marocains, ils se prennent dans les bras, ils se font la bise, ils se tiennent la main dans la rue. Mm-hmm. Il y a vraiment une notion de la sensualité entre hommes qui est très, très, très différente. Puis Ismaël a réussi à faire la communion entre les danseurs québécois et les danseurs marocains. Puis ils sont allés tous au Maroc, en fait, pendant 2 semaines. Et il en parle dans son entrevue, Ismaël. Puis ils ont dansé, là, puis il y a un documentaire là-dessus là, de 15 minutes. Puis on les voit sur le sable, au soleil couchant, qui dansent. Puis ils sont très proches physiquement les uns des autres. Puis en tout cas, c'était vraiment super cool. Puis la musique aussi de la création était...
Wow!
Ouais, vraiment.
Les auditoristes ne te voient pas, mais moi, je te vois et tu me fais des grands yeux
avec... Les étoiles dans les yeux.
Oui, vraiment, wow, ça donne envie.
Vraiment. Ben ça tombe bien parce que c'est encore en performance. Il y a une... Ben là, ce soir, c'est un petit peu trop tard, c'est à 7 heures. Mais demain, c'est à 4 heures, il me semble. Donc, d'accord. Vous pouvez aller sur Internet, Le Sacre de Lila. Et c'est à l'Agora de la danse, qui est vraiment une super cool salle aussi pour ça, parce que c'est très intime. Fait que c'est ça. Sans plus tarder, je vous diffuse l'entrevue que j'ai réalisée avec Ismaël. Donc, j'étais à la première hier. J'ai vraiment adoré. Là, j'avais hâte qu'on se parle, parce que pour vrai, ça, j'ai senti comme à la fin aussi du spectacle, là, tout le monde avait le sourire aux lèvres. Ça a vraiment fait un effet... que j'avais rarement vu pour vrai dans une salle. Là. Donc, je tenais à vous féliciter pour le travail, puis à féliciter aussi les danseurs. C'était vraiment impressionnant.
Ben, merci de votre présence. Puis, je suis très content qu'il y ait des beaux sourires sur les visages. Ouais.
Très fier. Complètement. J'avais quelques petites questions pour vous. Je voulais savoir, c'était quoi votre intention de départ pour la création de ce spectacle? C'est quoi que vous aviez en tête?
Ben, en fait, c'est... Qu'est-ce que j'avais en tête aussi, ce que j'avais beaucoup dans le cœur, parce que j'avais aussi envie de partager une des facettes de nombreuses cultures que je porte, et particulièrement celle du Maroc. Mm-hmm. J'avais envie de la valoriser et de la montrer à travers des corps issus de corps issus du Maroc, mais aussi du Québec, mm-hmm. et la valoriser dans l'aspect communautaire, dans l'aspect sensuel, sensible, festif. C'est tous ces éléments-là que j'ai voulu partager, montrer une autre facette du Maroc dans son énergie, dans sa culture. Donc voilà, c'est ça.
Parfait. Ben c'est, je confirme, c'est vraiment ça qu'on a ressenti, moi, personnellement, en tout cas. Là. Donc, c'est super. Puis, j'ai vu le documentaire qui a été fait sur la préparation que vous avez fait avec les danseurs au Maroc. Premièrement, combien de temps vous êtes resté là-bas?
On est tous allés là-bas pendant 2 semaines.
OK. Puis, qu'est-ce que vous pensez que ça a apporté aux danseurs de faire cette préparation-là au Maroc au lieu de dans une salle de répétition?
Bah, ça a apporté plusieurs éléments. Déjà, moi, qui est ici, puis qui dirigeais le travail de création avec les danseurs au Québec, on n'avait pas encore rencontré les Marocains. Bah, c'est sûr que parler du Maroc, mais ne pas y être, c'est quelque part s'imaginer un ailleurs, mais en même temps, c'est on peut faire tous les efforts du monde pour le percevoir et s'en approcher, mais c'est en y allant dans un travail d'immersion dans le corps, dans l'esprit, et aussi à travers justement la culture marocaine, aussi la communauté marocaine, que c'est là où est-ce que tout ce que on a partagé en studio au Québec, bah, s'est réellement matérialisé dans leur esprit, et qu'ils ont vu tout le sens, et aussi toute la valorisation qu'ils avaient à travers ça, ou comment ils se sont découverts dans cette démarche à danser aussi avec les danseurs du Maroc. Et vice-versa, quand les Marocains sont venus au Québec, c'est comme, ah, c'était un chemin, c'était le même processus que de l'autre côté de l'Atlantique.
Ben oui, j'imagine. C'est super intéressant. Puis, c'est ça, dans le fond, la sensualité entre les hommes, ou juste la proximité entre les hommes au Maroc est très différente que celle au Québec. Puis, comme il y avait des Québécois qui ont fait un petit peu comme cette initiation, j'imagine, à se déjeuner un petit peu entre hommes. Est-ce que vous avez senti une différence chez les danseurs après avoir fait cette préparation par rapport au spectacle?
Ben ça, c'est une bonne question. Puis je vous dirais que avant d'être comme une sensibilité masculine vis-à-vis d'un territoire, c'est plutôt vis-à-vis d'un humain, moi j'ai senti, et qu'il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de barrière les uns avec les autres, ou avec soi-même. Mmh. Au contraire, j'ai vraiment senti que c'était tout simplement naturel en chacun de nous en tant que humain, et que ça nous a tous fait beaucoup de bien de pouvoir l'exclamer et l'affirmer et le partager ensemble cette notion-là. C'est-à-dire quand on réalise, c'était juste que comme au Québec, j'ai le sentiment qu'on ne le verbalise pas, puis on le met pas de manière concrète parce que c'est pas dans nos premiers réflexes. Mmh. Mais finalement, quand on le met en application, et que bah, c'est comme libérateur pour tout le monde, en fait, et ça devient même comme une forme de... C'est ce qui crée le lien de la communauté, c'est ce rapport de se toucher, d'être en proximité, de se laisser regarder, de reconnaître aussi la sensibilité de l'autre. Donc c'est tout ça, quoi. Ouais. Franchement, c'est vraiment une belle découverte pour chacun de nous, hein.
Mm-hmm. C'est vraiment fascinant, puis c'est sûr que ça a dû être libérateur pour les hommes, les danseurs qui n'étaient pas habitués à ça, de s'abandonner à ça, là. Puis j'ai vu aussi dans un documentaire qu'il y avait un danseur qui parlait du fait que tout ce qu'il vivait en préparation au spectacle, c'était comme, il parlait d'une guérison, que ça avait l'air tellement énergétique, tu sais, qu'il parlait aussi de l'énergie qui partait d'un corps pour aller dans un autre corps. Donc c'est ça, j'ai comme senti aussi qu'il y avait cette espèce de thérapie inconsciente qui se passait pendant les entraînements, si on peut dire.
Oui, c'est ça, c'est comme une espèce d'un surpassement physique qui nous amène aussi à libérer notre esprit aussi. Et cette libération, c'est comme une forme de thérapie tout à fait, où on diminue nos résistances intérieures à travers cette notion de danser, de partager la danse en communauté, puis aussi dans ce rapport à l'état de corps, dans l'effort physique, dans le surpassement de soi, puis aussi la découverte à travers ce surpassement, le lâcher prise qui en génère aussi. C'est comme ça, je pense, cette forme de guérison. Puis c'est une guérison, mais en même temps, je pourrais dire que c'est un renforcement aussi. On se sent, on découvre qu'on a des forces intérieures qu'on n'imaginait pas.
Toujours sur les ondes de sécurité, c'est Alex qui vous parle. On vient d'entendre une petite partie de la pièce de danse contemporaine que j'ai eu la chance de voir hier. Donc, pièce du nom de Baby Lift, qui est un solo de l'artiste multidisciplinaire Anne Vaux. Donc, Baby Lift, c'est quoi? C'est une pièce qui tente d'évoquer les fantômes de la guerre du Vietnam. Intitulée d'après l'opération massive d'évacuation d'enfants sud-vietnamiens vers les pays de l'Ouest en 1975, évacuation ayant abouti à la mort de 68 d'entre eux lors d'un écrasement d'avion par ailleurs. L'œuvre Baby Lift est avant tout un monument aux commémorés, à la mémoire de celles qui ont été oubliées. Cherchant à rendre plus queer l'histoire masculine linéaire, Vaux tisse entre eux les souvenirs culturels du mouvement américain des droits civiques, les fantasmes de liberté des années 60, la culture populaire et l'activisme de gauche contemporain sur un fond sonore désorientant. Baby Lift superpose des mouvements rituels répétitifs à des gestes sexuellement provocateurs pour spéculer sur un érotisme de la hantise pouvant se révéler aussi terrifiant que plaisant. Ce n'est pas d'emblée mon genre de spectacle, ni celui de l'ami qui m'accompagnait, mais nous avons été toutes deux agréablement surprises, voire subjuguées par le charisme sensuel d'Anne Vaux. C'est vraiment une personne charismatique qui arrive à captiver les plus sceptiques d'entre nous face à ce genre de pièces. Découle de cette pièce vraiment une sensualité qui est... vraiment étonnante. On vit plein d'émotions, on est tanné, on est triste, on est heureuse. Bref, c'est vraiment... je vous le conseille. Ce soir, ça va peut-être être un peu serré pour aller voir la représentation, mais vous êtes chanceux, chanceuse. Il y a une représentation demain au mai à 19h30 et il reste des billets, donc vous pouvez sauter sur l'occasion. Et voilà, ça termine l'émission, Lynn.
Déjà.
Ça a passé vite.
Ça passe vite tout le temps.
Qu'est-ce qu'on a à l'émission la semaine prochaine?
Écoute, une émission très le fun. Je vais interviewer Kim Obom-Sawin. J'ai tellement hâte. Non, ça va être vraiment cool. Puis je m'en vais voir, c'est ça, Elle du déluge lundi, donc du 28 novembre au 6 décembre. Et j'ai sûrement d'autres choses que j'ai oubliées, mais je pense pas.
Moi, je vais... vous allez entendre l'entrevue de l'artiste musicale Myriam Gendron, que je vais interviewer. Tu la connais?
Ben oui!
Ah,
ben... Elle a fait les résidences du Moulin à au Bic, en fait, à cause de Rimouski. Puis je connais le Daniel qui s'occupe des résidences du Moulin.
Très nice. Bien, elle sera en concert. Là, je vais vous dire une bonne date, si je me trompe pas.
C'est lundi, non?
Non. Le jeudi, le 8 décembre prochain, elle va être... jeudi, le 8 décembre prochain, elle va être en concert au La Tulipe. Donc, je vais l'interviewer la semaine prochaine. Vous allez pouvoir donc entendre cette interview. Je vais aussi voir la pièce Ciseaux, mais... à l'espace libre, mais bon, c'est complet. C'est une pièce qui a l'air vraiment bonne, dont tout le monde parle. Mais c'est ça. C'est une pièce de la compagnie Pleurer dans douche qui continue sa réflexion sur la sous-représentation des personnes s'identifiant comme femmes, entre autres dans les milieux 2SLGBTQ+, entamée la saison dernière avec Rod Pierre, le documentaire. Et c'est ça pour cette semaine.
Mais c'est ça, je pense que Myriam Gendron est en show jeudi. Puis il y a aussi lundi soir un show avec plusieurs personnes qui ont fait les résidences du Moulin.
Ah, vraiment?
Oui.
Ah, donc lundi qui arrive, là.
Oui, c'est ça. Le nom de show m'échappe, mais je sais que Myriam Gendron en fait partie.
Bon, ben pour celles-là qui veulent l'entendre... plein de chance de l'avoir.
Oui, ça va être super le fun.
Alors, merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés. On vous laisse pour une autre grande semaine de culture à Montréal et on vous souhaite un bon week-end.
Bonne semaine tout le monde.
badder than Sheamus. Stay locked on to Soca Session on the Seeker 90.3 FM. Hey, where they play brand new soca in Montreal. Famous badder than Sheamus. No, 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 no.
Thank you for calling the Miami Carnival Emergency Hotline. Your call is important to us. To activate the usual, boring Miami Carnival mixes, press 1. To activate Revel Nation's Revel for the Road mix by Dr. Eason and International Steven, press 2. Warning, you have selected 2. If you are currently in the office, in a healthy relationship, or still have no money to pay off your costume,
disconnect. Todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chuca ya chuca la ya chuca ya casi kichis. Que hemos con la tapica ya tata agua ya tata kudapi u ya rima ni kuda u kuda para ikuna. Kuna ka allí en taque guaira kuna chay muka kai Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13. Y las patas me muso taquita pomanchis. Chay taque sutik mi Latinoamérica. Uyari kusunchis.
Cancunapa.